un orgue inspiré par des mélodies populaires, des paroles de chansons en guise de prière, un culte intrigant, comme une invitation à franchir les frontières du sacré et du profane. À l'évidence, la foi est perméable. La vie, la poésie, la culture, tout cela communique sans cesse. Ce qui caractérise les chansons, c'est aussi étonnamment peut-être ce qui caractérise les Écritures et l'Évangile. Les mots d'un autre peuvent devenir les miens. Une parole, une mélodie entendue deviennent un refrain sur mes lèvres, un air dans mon cœur qui me fait respirer plus au large. Chant du poète, chant du peuple ou du prophète, un chant peut devenir le mien et élargir mon cœur et mon âme et me faire communier d'une manière toute singulière à la part d'universel que recèle toute expérience humaine. La spiritualité, la force des écrits bibliques ne s'appréhende pas seulement avec l'érudition et la sémantique et la linguistique. Je vous invite à lire la Bible, je vous invite à méditer, je vous invite à prier comme on apprécie une bonne chanson. Est-ce que cela sonne juste? Est-ce que le chemin qui se dessine est bon? Est-ce qu'il peut devenir le mien? Est-ce qu'au fond cet air se révèle familier? Est-ce qu'il peut accompagner ma journée, porter ne serait-ce qu'un instant ma propre voix, mon propre chant, me donner des mots nouveaux pour vivre plus fort, pour vivre plus simple, pour vivre plus vrai? Alors dans ce culte différent, illustré par des dessins de Francesco Piobico, un travailleur social d'une île tristement célèbre, Lampedusa, aux portes de l'Italie et de l'Europe. Grâce à l'orgue de Frédéric et aux baguettes de Michel, grâce aussi à la voix de Zoan, les chansons populaires vont rencontrer la sagesse biblique, la parole des poètes qui chantent la vie, cette vie souvent bousculée des hommes et des femmes de notre temps, va croiser rien de moins que la parole de Dieu. Des mélodies et des rythmes que l'on connaît par cœur vont rencontrer des récits millénaires, et avec ces récits, ces mille vies d'hier et d'aujourd'hui que nous allons croiser, et peut-être aussi la vie de celui qui est au-delà de tout. En définitive, c'est là peut-être le seul véritable enjeu d'un culte ou d'une prière, que cette rencontre advienne, que mon existence s'expose à l'intensité de sa présence. De cette rencontre, toi et moi ressortirons peut-être un peu plus forts ou un peu plus désarmés, reposés ou aiguisés, intrigués ou confortés. Je ne sais. Mais c'est sûr. Dieu, lui, sait. Emmenez-moi. L'appel du large résonne au cœur de chacun d'entre nous, peut-être. Désir d'une autre vie, d'un ciel plus clément. Oui, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Oui, il me semble que la misère serait moins pénible en sécurité, moins pénible en liberté. Si j'étais libre de vivre et d'exprimer mes idées et ma foi, il me semble qu'une autre vie est possible, que l'on peut, que l'on doit forcer le destin. Depuis la simple survie à l'aspiration à une vie autre que celle que l'on subit, depuis des millénaires, l'homme rêve, se projette, bouge, part, se met en route, migre, découvre, s'aventure loin de toute routine, risque mille dangers pour s'arracher à toutes sortes d'ornières d'une vie toute tracée et d'un désastre annoncé. Alors oui, oui, emmenez-moi à l'autre bout de la terre, sur un fameux trois-mâts, sur un rafio, sur une coquille de noix s'il le faut. Exodus, Exode, l'histoire biblique, la vraie, commence là, avec les récits d'Exode. Mon ancêtre était un Araméen errant, oui, errant. Voici la condition de ceux dont nous nous réclamons encore. Exodus, tout commence là. On va, on vient, des rives du Nil et de l'oppression de Pharaon, jusqu'à Babylone, la grande, la splendide, avec ses jardins et ses milliers d'opprimés, sous le joug du grand Nabucodonosor. Et jusque dans les décennies d'errance, dans le désert, le Dieu que nous adorons, est celui qui s'est manifesté, qui s'est révélé dans un peuple à l'épreuve de l'exil. Les croyants qui sont nos pères dans la foi ont forgé leur espérance au feu des dangers et de l'audace, fuyant la violence qui défigure tout, cette violence qui défigure les peuples, les hommes et jusqu'au paysage. Loin dans l'infini s'étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Les psaumes le disaient déjà. Écoutez le psaume 137. Au bord des fleuves de Babylone, nous sommes là prostrés et nous pleurons en évoquant notre pays, en pensant à chez nous. Pourtant, nos gardiens nous disent « Chantez-nous des chansons joyeuses, des cantiques de chez vous. » Mais comment pourrions-nous chanter des cantiques sur cette terre étrangère et idolâtre ? Livre du Deutéronome, chapitre 26. Oui, mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés, opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des prodiges extraordinaires. Il nous a conduits jusqu'ici et nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. Étrange voyage, étrange pays, tour à tour hospitalier, puis oppressant, l'Égypte. En même temps, la terre qui a accueilli Jacob et ses fils, fuyant la famine, mais ces Hébreux d'abord accueillis deviennent main d'œuvre bon marché, dont on use et abuse jusqu'à l'esclavage. L'Égypte, terre d'asile, devenue prison d'angoisse, dont il faut toute la force de Dieu pour faire sauter les verrous. Égypte que Joseph et Marie, bien des siècles plus tard, choisiront comme refuge pour échapper, eux et leurs jeunes enfants, à un monarque sanguinaire et infanticide. L'histoire bégaye et nous sommes plongés dedans jusqu'au cou. Accueil ou oppression. Quelle terre sommes-nous? Terre d'asile et d'hospitalité, terre d'exil et de rejet. Question vieille comme le monde. Défi d'actualité brûlant. Défi collectif et sociétal, s'il est vrai que nos démocraties occidentales délèguent aisément au collectif, à l'État, au monde associatif, la charge de l'accueil. Géniale intuition, si cette mission collective implique que c'est l'affaire de tous. Désastreuse mise en pratique, si l'argument collectif et politique est une manière de botter en touche, si c'est une manière de se désimpliquer, une manière d'évacuer l'hospitalité de nos propres foyers, de nos propres maisons. Je cite le philosophe Jacques Derrida. Je me rappelle un mauvais jour. J'avais eu comme le souffle coupé, un haut le cœur en vérité, quand j'ai entendu pour la première fois, la comprenant à peine, l'expression « délit d'hospitalité ». En fait, je ne suis pas sûr de l'avoir entendu, car je me demande si quelqu'un a jamais pu la prononcer et la prendre dans sa bouche, cette expression venimeuse. Non, je ne l'ai pas entendue. Je peux à peine la répéter, mais je l'ai lu sans voix, dans un texte officiel. Il s'agissait d'une loi permettant de poursuivre, voire d'emprisonner, ceux qui hébergent et aident des étrangers en situation jugée illégale. Ce délit d'hospitalité, je me demande encore qui a pu oser associer ces mots, est passible d'emprisonnement. Que devient un pays? On se le demande. Que devient une culture? Que devient une langue? Dit Jacques Derrida. Quand on peut y parler de défi d'hospitalité, quand l'hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime. La question de l'accueil. Les multiples défis pratiques que suppose la réalité des migrations, des mobilités, de son accueil est bien sûr un défi immense, collectif, une question sociétale, c'est vrai, mais elle reste et doit rester une question toute personnelle et existentielle. Si nous nous rappelions que nous nous revendiquons d'un même curieux ancêtre, ce père d'un peuple plus nombreux que les grains de sable sur les rivages de la Méditerranée, ce drôle d'araméen errant. Ce qui fait la grandeur d'Abraham, ce n'est pas d'abord qu'il ait quitté son pays pour se mettre en quête de lui-même et en quête de Dieu. Ce qui fait la grandeur d'Abraham, ce n'est pas son obéissance aveugle à Dieu, pour lequel il aurait été prêt à sacrifier son propre fils. Ce qui fait la grandeur d'Abraham, ce n'est pas sa postérité immense que les trois grands monothéismes revendiquent ardemment. Ce qui fait la grandeur d'Abraham, c'est l'hospitalité qu'il a su vivre. C'est cela qui l'élève à la hauteur d'un modèle d'humanité. L'hospitalité comme partie intégrante du processus d'hominisation. C'est ainsi que le philosophe René Scherrer affirme « L'homme est devenu et devient homme en tant qu'il pratique l'hospitalité. » L'homme est devenu et devient homme en tant qu'il pratique l'hospitalité. L'hospitalité d'Abraham, ce récit de jadis, nous est donné en inspiration pour les défis d'aujourd'hui, inspiration aussi pour les défis de demain. Lisons dans le livre de la Genèse. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit trois hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit « Je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. » Les visiteurs répondent « D'accord. Fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Il lui dit « Vite, prends 25 kilos de la meilleure farine, prépare la pâte et fais des galettes. » Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent. Pendant le repas, Abraham se tient debout, près d'eux, sous l'arbre. Hospitalité d'Abraham, tout oriental, ou tout auvergnate peut-être. On fait de son mieux pour accueillir plus que dignement. On se met en quatre pour honorer ce visiteur, pour être un bon hôte pour son hôte. Tiens, voilà un mot curieux et plein d'enseignements. Un seul mot pour dire les deux rôles, celui qui reçoit et celui qui est reçu, celui qui donne l'hospitalité et celui qui la reçoit, comme si chacun devenait débiteur de l'autre, comme si chacun offrait à l'autre. Et c'est d'ailleurs bien ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham, puisque ces trois étrangers, qu'il a reçus comme des hôtes de choix, vont lui annoncer la plus improbable promesse qui soit. Lui qui, avec son épouse Sarah, forme un couple de vieillards, sans descendance, vont accueillir la vie. Rien de moins que cela. À l'âge où l'on n'attend plus, à l'âge où la sagesse nous aide à consentir aux limites, à l'âge où on n'a plus grand-chose à prouver, et peut-être plus grand-chose non plus à espérer, Abraham et Sarai, ces vieillards hospitaliers, se voient annoncer la plus improbable des nouvelles. Leur vieille vie peut encore susciter de la vie. Il y a de la fécondité pour eux, contre toute attente. Eux qui se croyaient déjà à l'automne de leur vie, peut-être même à l'hiver de leur existence, ils sont encore au printemps. Encore quelque chose à accueillir, encore quelqu'un dont il faudra prendre soin. À tout moment, le livre des commencements, la genèse de ma vie n'est pas encore finie. Vivre l'hospitalité, c'est ouvrir cette porte-là de nouveaux possibles. Je voudrais citer un passage d'une lettre de prison de Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, engagé dans la lutte contre Hitler, emprisonné à Berlin pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, puis exécuté. Les avions bombardent la ville, ses codétenus ne peuvent héberger en eux que la peur. Et voilà ce que Bonhoeffer écrit à son ami. J'observe ici régulièrement qu'il y a peu d'hommes capables d'héberger en eux simultanément beaucoup de choses. Quand les avions approchent, ils ne sont que peur. Quand ils ont quelque chose de bon à manger, leur avidité triomphe. Lorsqu'un désir reste inassouvi, ils ne sont que désespérés. Et lorsque quelque chose réussit, ils ne voient plus rien d'autre. Ils passent à côté de la plénitude de la vie et de l'intégralité d'une existence propre. La réalité, tant objective que subjective, se désagrège pour eux en morceaux. En comparaison, le christianisme nous place simultanément dans maints domaines de la vie très différents. Nous hébergeons en nous, pour ainsi dire, Dieu et le monde entier. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous nous réjouissons avec ceux qui sont dans la joie, nous craignons pour notre vie et en même temps, nous pensons à ce qui importe plus que notre vie. Dès que, pendant une alerte, nos pensées se tournent vers autre chose que notre propre sécurité, si par exemple nous songeons à notre devoir de répandre le calme autour de nous, alors la situation devient tout autre. La vie n'est pas repoussée dans une dimension unique, mais elle reste à plusieurs dimensions, polyphoniques. Choisir l'hospitalité, c'est maintenir cette polyphonie au cœur de notre existence. Il y a place en nous pour l'autre. Et cette place de l'autre, qui peut-être nous apportera plus que nous pouvons lui offrir, c'est rien de moins que la place de Dieu. Et c'est cela l'expérience d'Abraham. Vous savez que la tradition chrétienne orientale a immortalisé l'hospitalité d'Abraham dans une icône que l'orthodoxie appelle aussi la philoxénie d'Abraham, ce qui veut dire l'amour de l'étranger d'Abraham. Cette icône est peut-être devenue la plus populaire au monde comme image de la Trinité, l'image qu'en Dieu même, il y a de la place pour l'autre, que si Dieu est un, il n'est pas solitaire, mais relationnel, que si Dieu est amour, cet amour est par nature hospitalité. Oui, il y a de l'hôte en Dieu, de l'hôte, dans ces deux rôles indémêlables, quelqu'un qui accueille, quelqu'un à accueillir, quelqu'un à aimer. Nous allons nous unir dans la prière. Cette semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et dimanche dernier, l'Église catholique avait décidé de faire de la journée du migrant et du réfugié, et avait proposé une prière qui a été lue et priée dans beaucoup d'églises catholiques. Je me suis dit que c'était à la fois un double témoignage de reprendre ces mots de cette prière maintenant. Nous la prolongerons dans notre silence, en la peuplant des visages et des prénoms des personnes que nous portons dans notre cœur, que nous soutenons peut-être dans la vie aussi. Prions. Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l'autre, d'un autre pays, d'une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route ensemble. Imprègne-nous de ta parole pour que nous puissions donner corps à ton évangile en nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d'un message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité. En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles, leur chair est taché. En promouvant la vie de chaque personne et un vivre ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice et de la paix. En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s'intégrer, d'être capable d'apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu'il porte en lui. Ce n'est pas toujours une voie facile. Elle demande des choix et des dépassements. Mais c'est une voie porteuse de vie et d'espérance qui mène vers ton royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec toi, à nos côtés. Nous te prions pour ces frères et ces sœurs que tu nous donnes au fil des rencontres, des sollicitations. Seigneur, tous ces visages, toutes ces vies, nous te les confions et nous nous confions nous-mêmes à ton amour, toi qui es le Père éternel, toi que Jésus nous a appris à te prier en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation, la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, hospitalité, ne se referment en des certitudes figées et vides, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre, plus hospitalier, plus solidaire, plus fraternel. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que le Dieu de l'espérance nous prenne par la main et nous entraîne sur des chemins inattendus, que chante en nous comme un défi l'amour de la vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour le dernier morceau, après on quittera ce lieu.